Seigneur a pourvu chaque fois. Des fois, c'était vers le dernier moment. Je me souviens, ma famille Servat voulait qu'on quitte la maison. Et c'était, on voulait qu'il quitte la maison vers le 1er janvier. Et on a trouvé un local au mois de novembre. Dans ce local, on était là 3 ans. Et le bâtiment fut vendu à un Quick Restaurant. Et donc, il fallait quitter les lieux à nouveau. Et enfin, nous étions les derniers locataires de quitter le bâtiment. Et le Seigneur a pourvu encore un autre bâtiment. Et puis là, on était là une dizaine d'années. Et on était informé qu'il fallait quitter les lieux parce que, justement, la ville avait exercé son droit de préemption comme le propriétaire cherchait à vendre le bâtiment à quelqu'un d'autre. Il fallait encore quitter ce bâtiment et le Seigneur a pourvu encore. Et donc, le Seigneur est presque toujours en retard. Mais il pourvoit au bon moment. Il faut lui faire confiance et il est en train de vous diriger en ce moment. Il faut voir si cela est la volonté de Dieu. Mais le Seigneur ouvrira la porte pour vous. L'enseignement de Jésus a souvent confondu ses adversaires, mais aussi ses disciples. Et l'enseignement d'aimer ses ennemis va contre l'esprit humain. Dans notre monde, nous sommes attaqués. Si nous sommes attaqués, nous cherchons des moyens pour saisir la justice afin de faire valoir nos droits. Jésus a donné un enseignement radical en disant à ses disciples d'être prêts à subir les injustices, des abus de la part des autres, mais surtout dans un contexte de faire avancer l'Évangile. Les chrétiens ont toujours été prêts quand même à donner leur vie pour Christ. On voit ça dans le monde actuel. Pourtant, ce n'est pas tout ce qu'il nous demande de faire. Il nous demande aussi d'aimer nos ennemis. Dans le contexte de l'Église persécutée, on a parlé de ce sujet dimanche dernier, et je pense que c'est un sujet qui est vraiment à propos pour tout chrétien. Pour ceux qui sont persécutés pour leur foi, mais aussi pour ceux qui vivent dans un contexte comme le nôtre ici en France. Ce commandement d'aimer nos ennemis est l'enseignement le plus radical de tout ce que Jésus a enseigné. Et donc, ce matin, nous avons ce passage, et je vous invite à regarder ce passage dans Luc chapitre 6. Où justement, nous avons ce commandement, mais aimez vos ennemis. Mais on va lire tout le passage là pour voir justement tout le contexte là. Et à partir du verset 27, mais je vous dis à vous qui écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Et si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas tes biens à celui qui les prend. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pareillement pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi en font autant. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et alors, ce matin, prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur, nous te prions ce matin de bénir ta parole par l'œuvre de ton esprit. Que ton esprit agisse à travers ta parole pour justement convaincre de péché, des domaines dans notre vie qui devraient changer. Alors je te supplie ce matin d'œuvrer d'une manière puissante dans les cœurs pour ta gloire. Au nom de Christ. Amen. Et donc, et on trouve le même passage dans Matthieu 5. Là, c'est sur la montagne, dans Matthieu 5. Ici, c'est sur un plateau, mais j'ai l'impression que Jésus donnait les mêmes messages à plusieurs reprises. L'enseignement est quelque chose qui concerne un bon enseignement. C'est un enseignement à donner à plusieurs endroits. Et donc, Jésus a enseigné ses idées dans d'autres passages. Mais on va rester surtout dans Luc ce matin. Mais aimez vos ennemis. Le commandement le plus radical de Jésus. Mais aimer nos ennemis n'a rien à voir avec les sentiments. C'est un amour agapé. Dans la Bible, il y a trois types d'amour mentionnés. Eros, qui est plutôt l'amour érotique, sexuel. Et puis l'amour filio, qui est plutôt l'amour de l'amitié. Mais agapé, c'est un amour qui n'est pas basé sur les sentiments, sur ce qu'on voit. Si on peut rappeler ce commandement, le commandement le plus puissant, c'est aussi le commandement le plus difficile que Jésus a donné. Les gens aiment souvent baser selon le plaisir que l'autre leur apporte. Malheureusement, au sein du couple, c'est souvent ça. On voit l'amour agapé comme l'un des deux partenaires subit un problème de santé et l'autre reste à côté pour prendre soin de l'autre. Je pense à un certain professeur qui avait un grand ministère et sa femme a eu la maladie d'Alzheimer. Et c'est lui qui quittait son ministère pour s'occuper de sa femme. L'amour agape est souvent dirigé vers ceux avec lesquels nous n'avons pas forcément des affinités. Pensons au fait que Dieu nous aime et nous sommes vraiment, vraiment très différents de Dieu presque dans tous les domaines, très limités. Mais l'amour agapé est mentionné dans 1 Corinthiens 13. Je ne vais pas lire tout le passage, mais je vais mentionner quelques idées là. L'amour recherche le bien-être de l'autre et ne cherche pas son propre intérêt. L'amour se fait petit au lieu d'occuper toute la place. L'amour veut le bien de l'autre plutôt que le sien. On peut dire que l'amour agapé n'est pas égoïste. Cet amour pense au bien-être de l'autre. L'amour agapé donne
plutôt que prendre. Et on peut dire que Dieu a démontré, n'est-ce pas, le plus grand amour en envoyant son Fils mourir pour nous. On peut dire que Jésus lui-même a montré le même amour, n'est-ce pas, en se donnant sur la croix pour nous. Il a subi la mort la plus horrible afin de nous faire le plus grand bien, pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Si ce matin, vous êtes là pour la première fois et vous voulez savoir ce qu'est l'amour, il faut regarder l'exemple de Dieu. Dieu a donné son Fils pour vos péchés. Christ se donnait pour ceux qui l'ont haïssé, ceux qui le maltraité, ceux qui se moquaient de lui, ceux qui le crucifiaient. Christ a donné sa vie pour ceux qui étaient ses ennemis. Donc quand on parle d'aimer ses ennemis, Jésus a déjà montré le plus grand exemple. Nous lisons dans Romains chapitre 5, là, il nous dit dans verset 8 que « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et le verset 10 nous dit « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » En bien plus forte raison, étant réconciliés, serions-nous sauvés par sa vie. Mais le texte dit là, nous étions ennemis de Dieu. Et Christ a montré l'exemple en mourant pour ses ennemis. Nous voyons encore que aimer ses ennemis est le meilleur remède contre la haine et la colère. On trouve ce genre d'enseignement dans l'Ancien Testament. Regardons dans Lévitique. Je vous invite à regarder ce passage dans l'Ancien Testament. Lévitique 19. Et verset 17. Où il nous dit là, tu n'as haïras pas ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton compatriote. Mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Et donc, même dans l'Ancien Testament, on a cet enseignement, n'est-ce pas, de ne pas haïr ici un frère, quelqu'un d'autre, de si justement quelqu'un nous a offensé, il faut aller voir la personne et on ne gardera pas de rancune envers les autres. Mon texte là, on peut dire ici que cette idée d'aimer ou d'haïr commence où? Quelque part dans notre cerveau. Je dirais, la plus grande bataille dans cette lutte pour aimer les autres est ici. C'est dans notre intelligence où on réfléchit. Une traduction a dit, n'ayez aucune pensée de haine contre un frère. N'ayez aucune pensée. Et
Et donc pour nous, c'est là la difficulté, de ne pas garder dans notre esprit les idées qui sont contre cet enseignement d'amour. Et plutôt que la haine ou la rancune, Jésus prescrit des actions d'amour envers les ennemis. C'est ça qui est intéressant. Pas simplement ne pense pas mal à l'égard des autres, mais agis avec amour envers les autres. Pourquoi? Parce que c'est en agissant avec amour, souvent on commence à aimer l'autre. Donc plutôt que la haine ou la rancune, Jésus prescrit des actions. Il dit, faites du bien, bénissez, priez, prêtez et pardonnez. Faire du bien pour un ennemi semblerait presque impossible, même peut-être hypocrite. Mais Jésus dit, il nous dit de faire ça envers nos ennemis. En Israël, en Judée, il y avait des soldats romains qui étaient considérés comme les ennemis. Et justement, ils pouvaient obliger un citoyen de porter justement son bagage un mille égal à peu près 1,5 km. Et qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Si quelqu'un vous oblige d'aller 1,5 km, proposez d'aller 1/2 de votre plein gré, de votre volonté. Faire du bien à votre ennemi. On peut voir en Afrique un exemple. Justement dans la réconciliation entre les Tutsis et les Hutus, où justement ce qui faisait partie des cérémonies de réconciliation, c'est qu'il y avait un échange de cadeaux. Il donnait à l'autre un cadeau qui leur avait fait du mal. Il y avait un échange de cadeaux. Faire du bien à vos ennemis. C'est difficile de vouloir donner un cadeau à un ennemi. Mais Jésus nous dit de le faire. Il dit de bénir. Qu'est-ce que ce mot bénir veut dire? Le mot bénir indique notre désir que Dieu leur fasse du bien, que Dieu leur fasse prospérer. Quel est le désir humain souvent à l'égard d'un ennemi? Le contraire, n'est-ce pas? Que Dieu leur fasse du mal. Mais Jésus dit, priez que Dieu les bénisse. L'idée serait que Dieu leur fasse prospérer, que Dieu les favorise avec sa grâce et sa paix. Et puis de prier pour eux. Priez pour eux. Et encore, quand nous prions pour une personne, ça change notre esprit envers cette personne. Donc il nous demande de prier pour nos ennemis. Donc le texte implique le pardon ici. Quand il dit, si quelqu'un te frappe sur un joue, présente-lui l'autre. Mais c'est pas il faut toujours regarder le contexte. Parce que même Jésus, quand il fut frappé par un garde, quelle était la réaction de Jésus? Jésus lui a dit à cet homme qui l'a frappé, si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Donc Jésus ne suivait pas même cet enseignement à la lettre toujours. Qu'est-ce que Jésus voulait faire alors? Jésus voulait changer l'esprit de ses disciples. Il voulait que eux et nous, que nous ayons cet esprit de, non, que nous n'ayons pas cet esprit de droit et de vengeance.
Souvent, nous cherchons à faire valoir nos droits. Ou nous voulons nous venger. Et Jésus est en train de dire le contraire.
Il dit, si quelqu'un te prend ton manteau, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique.
Mais c'est un autre esprit que Jésus voulait donner à ses disciples. Que nous sommes prêts à subir des injustices pour faire avancer l'évangile.
L'apôtre Paul était comme ça. Des fois, il a exercé son droit de citoyen. Et des fois, non. Il se laisse battre par les gens. Et d'autres fois, il disait, ah, attends juste un instant, je sors ma carte d'identité, je suis romain. Il a sous-employé sa citoyenneté pour éviter d'être battu des fois. Mais comment est-ce que Jésus a réagi vis-à-vis de ses ennemis-là sur le croix? Qu'est-ce qu'il a prié? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la nécessité de pardonner. Quand nous prions, qu'est-ce que Jésus nous dit? Priez, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et qu'est-ce que Jésus dit par la suite? Il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, je ne vous pardonnerai pas non plus. L'histoire de Thomas, un pasteur en Inde, ceux qui se posaient à l'évangile l'ont presque battu à mort. Il est dit, quand j'ai essayé de me relever, on m'a frappé avec une barre de fer sur mon côté gauche. Du sang est sorti de mes oreilles et je me suis évanoui. Je sentais que des gens me frappaient et que quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais en prison. Et puis à l'hôpital, beaucoup de gens se sont présentés. Des commissions pour les droits de l'homme sont venues pour me voir et m'ont dit, s'il vous plaît, donnez-nous un nom pour que nous portions plainte. Et j'ai répondu, non, je ne veux pas porter plainte contre eux. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Je continue à prier pour ce village. Parce qu'il faut que tous ces villageois sachent qui est Jésus. Je leur ai pardonné. Je les aime. Donc, Jésus veut transformer cet esprit de haine ou de vengeance. Il veut que nous ayons un autre esprit. Et l'amour de ses ennemis, c'est le meilleur remède. C'est le meilleur remède à la colère et à la haine.
Nous trouvons l'inspiration pour aimer nos ennemis dans le caractère de Dieu. Il dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.
Et c'est là la fin de ce discours que Jésus donnait ici. Dans Matthieu, il termine avec la phrase, soyez parfait comme votre Père est parfait. Et je me pose la question, est-ce que l'idée d'être miséricordieux a la même idée d'être parfait? Notre Père céleste est miséricordieux. Et ses enfants devraient justement refléter ce caractère.
Rappelons-nous à quel point Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne des millions, des milliers et probablement des millions d'offenses de notre part, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez jamais essayé de faire le calcul? C'est-à-dire, si je ne faisais que 3 offenses par jour, 3 offenses avec les paroles, les attitudes, les actions, en un an, on a déjà dépassé 1000. Mais souvent, je peux faire 3 en 3 minutes, n'est-ce pas? Et quand on commence à faire le calcul de nos offenses, on arrive à un chiffre qui est trop important pour vraiment commettre. Et Dieu nous blanchit de tout quand on vient à lui et demande pardon. Et il est en train de nous dire, et vous ne pouvez pas pardonner à cet autre. Dieu est miséricordieux. C'est l'histoire que Jésus a donnée, n'est-ce pas? Un homme qui devait 10 000 talents, quand on commence à faire le calcul de ce qui est 10 talents d'argent, on ne peut pas même le calculer presque. Et il ne voulait pas pardonner à l'autre qui devait 100 deniers, c'est-à-dire à peu près 100 jours de travail, 4 mois de travail. Il ne voulait pas pardonner à l'autre sans sa faute. Et c'est souvent l'homme comme ça. Quelqu'un nous a offensés. Quelqu'un peut-être de la famille ou autre nous a offensés. Cette personne est notre ennemi et nous ne voulons pas pardonner. Mais il nous dit de pardonner. Jésus a montré ce même caractère de Dieu dans notre monde, n'est-ce pas? Il a aimé les gens en leur enseignant le chemin de Dieu, en guérissant les maladies. Il a fini par donner sa vie comme un sacrifice pour le péché de l'humanité. Jésus dit, le plus grand amour que quelqu'un puisse montrer, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus l'a fait, mais il l'a fait même pour ses ennemis. Jésus a donné sa vie même pour ses ennemis. Et Jésus a expliqué, personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. Il a donné sa vie pour payer le prix de notre pardon et de notre salut. Et si ce matin, vous n'avez pas découvert ça, ça c'est le début d'une relation avec Dieu. De justement mettre notre foi en Christ pour le pardon de nos péchés. Et donc je vous invite à faire ce pas ce matin. Mais le Saint-Esprit veut produire en nous la même attitude qui était en Jésus-Christ. Dans l'Église primitive, je pense que le premier martyr, c'était Étienne. Il a dit des choses aux Juifs qui perçaient leur cœur. Ils ont fini par le lapider comme un criminel. Mais ses dernières paroles étaient, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Par ces paroles, lors de sa mort, il ressemble à Jésus, n'est-ce pas? Dans nos messages dans notre église, on est en train de parler dans Romains chapitre 8. Et Romains chapitre 8, c'est le chapitre qui parle presque le plus du Saint-Esprit. Le chrétien, comment est-ce que le chrétien peut justement aimer ses ennemis? C'est une œuvre de l'Esprit dans notre cœur.
Nous avons besoin de marcher par l'aide du Saint-Esprit. Il est la clé à une vie chrétienne qui ressemble à la vie de Christ.
C'est lui qui nous rend aptes à mettre en pratique cet enseignement de aimer nos ennemis. L'enseignement est là, la parole a été annoncée, mais c'est en s'appuyant sur l'aide du Saint-Esprit qu'on arrive à la faire.
C'est lui qui nous aide à vaincre les mauvaises impulsions, qui nous aide à chasser les mauvaises idées qui viennent à notre esprit et qui s'opposent à cet amour agapé. Dans son livre The Hiding Place, Corrie Ten Boom raconte comment elle et sa sœur avaient été internées dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle racontait son témoignage dans de nombreuses réunions et elle se trouvait un jour à Munich où elle a donné son témoignage de foi et il y avait un ancien officier SS qui était là. Elle l'a reconnu.
Lui, il ne l'a pas reconnu. Il pensait que c'était juste une autre dame qui avait été dans les camps, mais Corrie Ten Boom l'a reconnu comme quelqu'un qui lui avait fait beaucoup de mal, et même à sa sœur. Et il s'approchait de moi, rayonnant et s'inclinant. Je vous remercie infiniment pour votre message, Pauline. Je pense que, comme vous l'avez dit, le Christ a lavé mes péchés. Il me tendait la main. Et moi qui avais si souvent enseigné aux gens de la nécessité de pardonner, je gardais mon bras le long de mon corps. Je pris conscience de mon péché. Alors même que je sentais bouillonner en moi un sentiment de colère, elle se disait, Jésus-Christ est mort pour cet homme. Que me paraît-il de plus? Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à pardonner à cet homme. Et j'ai essayé de sourire. Je m'efforçais de soulever mon bras. Et je ne ressentais pas le moindre parcelle de sympathie et de charité. Je priais à nouveau en silence, Jésus, je ne peux pas pardonner. Accorde-moi ton pardon. Alors que je prenais sa main, une chose extraordinaire se passa. De mon épaule, le long de mon bras et jusque dans ma main, un courant semble passer de moi à lui, pendant que mon cœur débordait d'amour pour cet étranger. Elle est arrivée à aimer cet homme qui avait fait mal à elle et à sa sœur.
Et donc, son histoire devrait nous aider, nous inspirer. Mais on a l'exemple de Christ, on a l'exemple d'Étienne, on a l'exemple d'autres chrétiens au fil des années. Finalement, aujourd'hui, qui est votre ennemi
à aimer? Qui est votre ennemi?
On parle ici de dans l'abstrait, mais qui est votre ennemi?
Quand un religieux avait justement demandé à Jésus, après avoir entendu l'histoire de le fait d'aimer son prochain comme lui-même, il a posé la question, et qui est mon prochain? Mais aujourd'hui, on pose la question, et qui est mon ennemi? Qui est mon ennemi que je devrais aimer? Quelqu'un a répondu, disant, c'est la personne. Un ennemi est quelqu'un qui n'est pas aimé par nous.
Luc 6, 27 et 28 parle de ceux qui vous maudissent. D'autres versets parlent de ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Peut-être au travail, il y a des gens qui se moquent de vous. Peut-être à l'école, des gens qui se moquent de vous. Mais qui est notre ennemi? Des fois, c'est des gens, malheureusement, dans la famille. Je connais beaucoup de personnes où il y a des situations familiales où ils n'aiment pas les gens de la famille. Quelqu'un de la famille leur a fait du mal. Jésus dit, pardonnez. Des fois, les gens au travail. Il y a des gens au travail qui sont méchants. Des gens qui parlent derrière notre dos. Qui disent des choses des fois, qui disent des choses qui sont fausses à notre sujet. Et Jésus nous dit d'aimer ces personnes aussi. Des fois, ce sont des gens d'autres cultures. Est-ce que nous avons un amour pour, par exemple, les musulmans ce matin? Est-ce que nous avons un amour pour les musulmans? Pour les hindouistes? Pour les bouddhistes? Ça ne dit pas qu'on est en train de dire qu'ils ont raison par rapport à leur foi. Mais est-ce qu'on aime ces personnes? Est-ce qu'on aime les athées? Des fois, il y a les athées qui sont agaçants. Mais on devrait les aimer. Mais si nous n'arrivons pas à aimer ces personnes au travail, dans le voisinage, ou d'autres cultures, comment est-ce qu'on va aimer les gens qui commencent à nous frapper, qui cherchent à nous tuer? Jésus veut transformer notre esprit. Ne pas avoir un esprit de vengeance, un esprit de colère et haine envers ceux qui s'opposent à nous ou qui sont différents de nous. Il veut que nous aimions nos ennemis. Et ça devrait commencer aujourd'hui. Il y avait un monsieur que j'ai trouvé son histoire intéressante, qui c'était un Anabaptiste, Dirk Willems, aux Pays-Bas. Il est devenu convaincu qu'on devait baptiser les croyants et par accepter le baptême des bébés. Il a fait en sorte qu'il n'était pas bien apprécié par l'Église catholique. Et en fait, il était mis en prison, condamné par l'Église catholique romaine aux Pays-Bas. Il était détenu dans un palais résidentiel transformé en prison, d'où il s'est échappé. Et il a traversé un lac gelé. Mais l'un des gardes l'a vu échapper. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a poursuivi sur la glace là, sur le lac. Mais lui, pesant plus, la glace a craqué et il est tombé dedans. Il a crié au secours. Et c'est Dirk Willems qui est revenu et qui l'a sauvé. Mais ça a fait en sorte que lui fut repris
Je ne sais pas si c'était par ce même gardien ou par un autre, mais il fut repris et condamné à mort, et il est mort l'année suivante.
Mais toute la population de sa ville, jusqu'aujourd'hui, garde en mémoire cet acte d'amour pour son ennemi. Et nous, j'espère que nous avons cette possibilité, cette capacité d'aimer nos ennemis. Oui, c'est l'enseignement de Jésus le plus radical et justement le plus difficile. Mais le texte nous dit, si nous arrivons à la faire, qu'est-ce qu'il dit à la fin? Et vous serez fils du Très-Haut. Je ne sais pas si... pour moi, ce n'est pas le fait qu'on mérite le salut en faisant ainsi. Non, l'idée serait... Nous ressemblerons à notre Père si nous arrivons à aimer nos ennemis. Nous allons ressembler à notre Père céleste, qui aime tous, qui aime même ses ennemis, les ingrats